En février dernier, j'ai fait partie des premiers en France dans l'écosystème à tweeter sur les NFT de la blockchain Ordinals. J'ai notamment rédigé un trade qui a été vu par plus de 60 000 personnes, dans lequel je faisais part de mon scepticisme et de mes craintes quant à la technologie, à l'infrastructure et aux plateformes de l'époque. Depuis, en quelques mois, les choses ont beaucoup changé et dans ce podcast, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur cette potentielle énorme opportunité. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Whitelist, le podcast NFT numéro 1. Je suis Néo et comme tous les dimanches dans ce podcast, je serai votre hôte. Alors aujourd'hui, j'ai comme tous les dimanches l'immense plaisir de vous retrouver pour échanger avec vous sur un sujet d'actualité qui couvre en ce moment un petit peu tous les réseaux, qui fait énormément de bruit et sur lequel on m'a posé beaucoup de questions, les Ordinals, les NFT de la blockchain Bitcoin, les tokens BRC20, quelle est cette nouvelle révolution, pas si nouvelle que ça, et qui peut potentiellement être une énorme opportunité en 2023. Alors, comme je l'ai expliqué dans l'intro, pas si nouveau que ça, effectivement, j'en parlais lors de mon trade de février où j'expliquais notamment que les Ordinals, ou plutôt les tokens de la blockchain Bitcoin, existent en vérité depuis de nombreuses années. En effet, les premiers NFT en date, les Colored Coins, sont issus de la blockchain Bitcoin. Ce qui vient différencier les Ordinals des tokens de l'époque de la blockchain Bitcoin qu'on connaît, c'est tout simplement le protocole. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, pour vous faire un petit peu le sommaire, on va commencer par poser les bases en expliquant la définition de ce que sont les Ordinals, de ce qu'est la BRC20, dont on entend aussi beaucoup parler en ce moment, quelles sont les différences par rapport à Ether, les avantages, les inconvénients, mais surtout, pourquoi c'est en tendance et est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça? Alors on commence donc tout de suite. Avant ça, une dernière chose, je tiens par avance ici à vous présenter mes plus plates excuses quant à la qualité potentiellement moyenne de mon microphone. En effet, j'enregistre ce podcast, comme vous le savez, depuis mon nouveau domicile au Portugal, où je n'ai pas encore pu pleinement installer mon setup, mon bureau de travail. Donc le micro auquel vous êtes habitué n'est pas le même que celui que vous entendez en ce moment même. J'utilise dans l'immédiat un micro cravate, qui a certes une bonne qualité audio, mais qui ne filtre pas aussi bien certains sons, comme les peu, par exemple. Alors, je tiens malgré tout à vous rassurer quant au fait que la qualité de forme de mon micro va largement être compensée par la qualité de fond de ce podcast audio, dans lequel je m'en vais vous présenter tout de suite le premier chapitre de ce dernier, à savoir quelle est la définition de l'Ordinals. Alors, pour ce faire, je vais vous proposer de me rejoindre dans un voyage dans le temps. Nous allons remonter ensemble à la date du 20 janvier 2023. À ce moment-là, le nouveau protocole Ordinals sur Bitcoin est officialisé par un certain Casey Rodarmor, un ancien développeur de Bitcoin Core. C'est un logiciel qui permet aux mineurs et aux développeurs d'assurer le bon fonctionnement de la blockchain. Et ce nouveau protocole, donc, puisque c'est sa définition qu'est Ordinals, a une particularité. Et cette particularité, c'est qu'il permet d'inscrire de manière permanente des informations sur Bitcoin. En gros, Ordinals, comparativement à avant, grâce à son nouveau protocole, permet d'inscrire des données, que ce soit par exemple des images, des textes, des tokens, ou même encore des smart contracts sur des Satoshi. Le Satoshi, c'est la plus petite unité d'un Bitcoin. Et cette particularité, qui est celle d'Ordinals, on l'appelle les inscriptions. Ce sont les inscriptions qui peuvent s'apparenter à un certain cloud décentralisé et transparent, en quelque sorte, et qui vont noter, en fait, dans ce grand registre qu'est la blockchain, toutes les nouvelles données qui ont été enregistrées grâce à ce même protocole qui est Ordinals. Par rapport à ça, il est important de comprendre et de différencier Ordinals de BRC20, puisque ce sont les deux dénominations, les deux terminologies qu'on entend le plus en rapport avec les NFT et les tokens Bitcoin en ce moment. Ordinals, comme vous l'avez compris, c'est un nouveau protocole de la blockchain Bitcoin. BRC20, quant à lui, ce n'est pas un protocole, ni même une nouvelle blockchain ou un nouveau réseau comme ce que j'ai pu entendre. C'est tout simplement une norme qui a été définie par la communauté, un petit peu comme ERC20 sur Ethereum, sauf que sur Bitcoin, eh bien, c'est BRC20. C'est évidemment un petit clin d'œil. Et ici, Ordinals et BRC20 sont liés. Ordinals, c'est le protocole. BRC20, c'est le nom de la norme qui va nommer les jetons qui auront été créés sur Ordinals. C'est-à-dire que tous les jetons, tous les NFT, tous les tokens du protocole Ordinals de la blockchain Bitcoin sont en BRC20. D'ailleurs, le premier token BRC20 a été créé sous le nom de Ordi, en référence justement au protocole qui lui a permis de voir le jour, Ordinals. Donc voilà par rapport aux définitions. J'espère jusqu'ici que c'est plus clair pour vous. Maintenant, concrètement, quelles sont les différences entre Bitcoin et Ethereum, entre BRC20 et ERC20 à l'échelle des NFT, mais pas que? Eh bien, je ne vais pas toutes vous les citer, mais il va y avoir trois grandes différences majeures. La première, c'est qu'il ne va pas vraiment y avoir de smart contract sur BRC20. Ce qui a fait le succès de la blockchain Ethereum et surtout sa capacité à créer l'écosystème NFT, ce sont les smart contracts, entre autres. C'est-à-dire la technologie derrière Ethereum permettant non seulement de créer des tokens, tout comme peut le faire Bitcoin avec le protocole Ordinals, mais aussi d'ajouter un certain nombre de paramètres, de conditions et d'informations à chaque token créé via le smart contract, permettant de les moduler, de les façonner et de les améliorer à foison. C'est ce qui permet notamment l'existence du reveal dans les NFT, du mécanisme de burn par exemple, ainsi que de très nombreuses autres choses. Malheureusement, sur BRC20, cela n'existe pas. Comme vous vous en doutez, ça limite donc énormément ses usages et applications. Puisque deuxième point, deuxième grande différence, vu qu'il n'y a pas de smart contract, eh bien vous ne pourrez pas lier et relier vos NFT, vos tokens BRC20 Ordinals à des applications par exemple. Grâce au smart contract, un NFT de la blockchain Ethereum, on peut le relier à une application ou à un site internet, par exemple pour faire du stacking, du lending, du yielding ou tout un tas d'autres choses et utilités. Ici, les usages et les interactions sont donc très limités sur la blockchain Bitcoin, ne lui permettant pas de faire grand-chose de plus que de minter, échanger, donc transférer, acheter et vendre des NFT. Enfin, troisième et dernier grand point de différence entre la blockchain Bitcoin et la blockchain Ethereum, eh bien, c'est tout simplement que la blockchain Bitcoin va être inadaptée aux échanges de masse. Effectivement, cette dernière n'a pas vraiment été conçue dans l'optique de pouvoir accueillir des milliers ou des millions de nouveaux tokens. Et bien que ce protocole permette en quelque sorte de pouvoir le faire, eh bien il ne sera pas aussi adapté à pouvoir le faire que ce que l'est Ethereum. Ici, l'image que vous pouvez vous donner en tête, ça va être de vous dire que par exemple, à chaque fois que vous allez émettre un token sur la blockchain Bitcoin, c'est comme si vous alliez écrire sur un bout de papier ou c'est comme si vous alliez générer un ticket de caisse du token que vous avez créé. Et bien sur Ethereum, c'est la même chose, sauf qu'en fait, ça va être dématérialisé et digitalisé. C'est-à-dire que là où d'un côté, on va avoir l'ancienne version avec les tickets de caisse, de l'autre avec Ethereum, imaginez que vous avez tous vos tickets de caisse directement sur votre smartphone en une seule et même application. Donc par rapport à ça, comme vous l'avez compris, c'était peut-être pas le meilleur exemple, mais ça vous laisse imaginer la limitation, là encore, de cette blockchain par rapport à l'autre. Du coup, vous vous demandez peut-être quels sont les avantages et les inconvénients finalement, puisque là je vous ai cité les différences, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une tendance et pourquoi finalement les gens se jettent dessus en ce moment? Eh bien, au-delà de ce que je vous ai dit, il n'y a pas vraiment d'avantages et d'inconvénients supplémentaires. Néanmoins, pourquoi c'est une tendance? Eh bien, là encore, pour trois grandes raisons. La première, c'est parce que c'est nouveau. Et comme vous le savez, que ce soit dans les NFT, dans les crypto-monnaies ou dans tous les domaines financiers, la nouveauté attire toujours. Donc par rapport à ça, forcément, eh bien, il y a un engouement qu'il y avait déjà eu janvier-février parmi les premiers qui étaient sur le sujet à l'époque, mais qui depuis a évolué par rapport notamment au deuxième point, c'est qu'il y a aussi de nouvelles infrastructures. J'en parlais dans mon thread Twitter que je citais dans l'introduction de ce podcast, dans lequel j'expliquais notamment mon inquiétude quant au fait que, pour le moment, vu que cette blockchain, en plus d'être limitée, n'avait pas d'infrastructure, de plateforme, d'échange. Il fallait passer par ce qu'on appelle des OTC. C'était vraiment des solutions assez obscures pour pouvoir échanger des ordinals. Eh bien, ça la rendait très compliquée et finalement très peu utilisée. Depuis, tout ça a changé. Il existe aujourd'hui de nouvelles infrastructures, des plateformes, des marketplaces. On a notamment Magic Eden, qui jusqu'alors était une marketplace spécialisée dans Solana, qui a également créé une marketplace Bitcoin spécialisée dans Ordinals. Il existe même des agrégateurs, un en particulier, dont je crois le nom est OKEX, quelque chose comme ça. Donc j'ai pas encore utilisé ce genre de solution, non c'est Ordex pardon, mais je vous invite à être prudent si jamais vous le faites, bien que en passant évidemment par des références comme Magic Eden, vous ne pouviez pas vous tromper. Enfin, troisième et dernier point sur le fait que ce soit en tendance, eh bien, cela va être les chiffres records. Fort est de constater qu'au cours des derniers jours, des dernières semaines, cette blockchain, en tout cas sur la partie NFT, a atteint de véritables records d'échanges, de transactions, de volume et de liquidité, notamment sur un projet en particulier que j'ai en tête, Bitcoin Frogs. Bitcoin Frogs, c'est un projet qui, lors de son récent mint, a réussi à réaliser l'exploit de générer plus de 2,2 millions de dollars en seulement 24 heures. Pour vous donner un ordre d'idée de l'ampleur de ce chiffre colossal, eh bien, cela a dépassé ce qu'a réalisé Yuga Labs sur la plupart de ses collections NFT depuis le début de l'année. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi en 24 heures à générer autant de liquidités que ce que Bitcoin Frogs a pu le faire. C'est vous dire. Alors, maintenant que vous connaissez la définition des ordinals, de la BRC20, des différences avec l'ERC20 entre la blockchain Bitcoin, la blockchain Ethereum, les avantages et inconvénients, vous savez aussi pourquoi c'est en tendance. Mais la question que vous vous posez peut-être, c'est pourquoi ce serait intéressant pour moi? Et là-dessus, eh bien, j'aimerais répondre en concluant ce podcast et en vous partageant mon avis, en vous disant deux choses. Premièrement, comme pour toute nouveauté, puisque c'est ce que je citais précédemment pour expliquer la tendance, eh bien, il y a potentiellement une opportunité, puisque le trading, ce n'est ni plus ni moins que de savoir comprendre et trader la tendance. Le fameux dicton qui dit « buy the rumor, sell the news » est en bonne partie plutôt vrai. Par rapport à ça, ici, je ne suis pas du genre, comme vous le savez, vous me connaissez, à faire des prédictions et à vous dire concrètement le Bitcoin Ordinals, c'est bien, c'est mal, ça va aller dans cette direction, ça va aller dans cette direction. C'est la même chose dans les cryptos. On pose des questions parfois ou sur une collection NFT me demandant d'après toi, où est-ce que va aller le Bitcoin? Quel prix on va atteindre au cours des prochains jours? Quel floor price on va atteindre sur telle collection au cours des prochaines semaines? Et à ça, je réponds toujours la même chose. Je ne fais pas de prédiction, je suis la tendance. Et fort est de constater encore une fois que la tendance, à l'heure actuelle dans l'écosystème NFT, nous montre qu'il y a un intérêt sur les NFT Bitcoin, sur Ordinals et sur BRC20. Qui dit tendance dit intérêt. Qui dit intérêt dit opportunité. Donc ici, en tout cas au moins à court terme, je pense qu'il peut être intéressant, oui, potentiellement de se positionner. Néanmoins, deuxième chose, bien que je pense que les opportunités de cet écosystème puissent être viables à court terme, je n'en démords toujours pas de mon avis dans le trade, une fois de plus, que je vous invite à aller le lire, que j'ai partagé en février dernier sur Twitter, et où j'explique que cet écosystème ne pourra pas être viable à long terme. Alors, je n'ai pas développé autant sur la technique que ce que je viens de le faire avec vous dans ce podcast, mais ici, de nombreux experts, dont je ne fais pas partie, puisqu'aujourd'hui, je me considère davantage comme un spécialiste et un passionné, investisseur de longue date qui a fait des NFT son métier, plus que comme un expert qui sort d'une grande école de trading et d'investissement et qui a aujourd'hui un agrément, car ce n'est pas mon cas, s'accordent sur le fait de dire que le protocole Ordinals dans les NFT en tant que tel, à long terme, ne pourra plus fonctionner. Pour toutes les raisons que je vous ai données, notamment sur le fait que la technologie est inadaptée aux échanges de masse, qu'elle est extrêmement coûteuse. Pour vous donner un ordre d'idée, inscrire une collection de 10 000 NFT Ordinals, donc sur la blockchain Bitcoin BRC20, c'est environ 250 000 dollars. Vous vous doutez bien qu'il ne va donc pas y avoir beaucoup de créateurs, mais qu'il n'y a aussi, en tout cas pour le moment, pas beaucoup d'échangeurs non plus, que ce soit des acheteurs ou des vendeurs. Par rapport à ça, bien qu'il y ait, comme je l'ai dit, et je le maintiens aussi, une opportunité à court terme de par la tendance, à long terme, c'est plus difficile à dire, mais ça s'annonce extrêmement compliqué. Néanmoins, aujourd'hui, vous pouvez vous positionner, et quitte à vous positionner, eh bien, autant vaut mieux le faire correctement et intelligemment. Par rapport à ça, c'est toujours la même chose. Comme pour tout le reste, ce qu'il vous faut, c'est les informations, les stratégies et un plan. Le plan, il est à définir vous-même en fonction de votre situation, de votre profil d'investisseur. Néanmoins, pour les informations et la stratégie, eh bien, je viens tout juste de partager 3 projets à fort potentiel qui vont sortir au cours des prochains jours sur la blockchain Bitcoin. Ce sont des collections NFT Ordinals en vogue, sur lesquelles il y a énormément d'engouement et de traction sur les réseaux sociaux, et où vous pouvez encore réussir à vous positionner, notamment via les whitelists, si vous arrivez à les obtenir, si vous faites ça assez rapidement. Je vous partage sur mon canal Telegram un guide complet qui va vous expliquer d'une part comment obtenir la whitelist sur ces mêmes projets. Je vous invite également à aller écouter le podcast que j'ai fait à ce sujet, où je vous partage 11 astuces infaillibles pour obtenir la whitelist quasiment à tous les coups dans les NFT. Et d'autre part, je vous ai également partagé un tutoriel complet, 100% gratuit, où vous saurez tout sur Ordinals, en plus de ce que je viens de vous dire d'un point de vue pratico-pratique, c'est-à-dire comment acheter et vendre des NFT Ordinals sur la blockchain Bitcoin, comment se créer un wallet et l'utiliser, et où trouver, comment trouver les bons projets NFT avant tout le monde. Tout ça, vous pouvez le retrouver encore une fois directement sur mon canal Telegram. C'est 100% gratuit et c'est le premier lien dans la description de ce podcast, juste en dessous. Petite précision, lorsque vous le rejoindrez, il est possible que vous receviez l'email de confirmation dans vos spams ou dans vos indésirables. Par rapport à ça, vérifiez bien toutes vos boîtes pour être sûr de ne pas le louper. Vous pouvez également utiliser la barre de recherche de votre boîte mail et taper quelque chose comme Neo par exemple pour pouvoir le retrouver plus facilement. On arrive maintenant à la fin de ce podcast que j'ai pris un immense plaisir à animer en votre compagnie et pour lequel eh bien, je vous remercie de m'avoir accompagné jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer, à activer la cloche des notifications. Je sais que cette option est notamment disponible sur Spotify, et à laisser bien sûr une note selon la plateforme de streaming sur laquelle vous vous trouvez. J'ai d'ailleurs à ce sujet eu la belle surprise de voir eh bien, que c'était le podcast NFT le mieux noté au prorata sur les diverses plateformes de streaming en France, 4,9 sur 5 sur Spotify, 5 sur 5 sur Apple Podcast. Donc par rapport à ça, eh bien, je voulais vous témoigner un immense merci. Voilà, vous connaissez la maison, j'ai l'habitude de vous demander à la fin de chaque podcast de le faire. Vous l'avez fait, donc pour ça, bah, c'est super, merci encore. Vous avez également la possibilité d'interagir en direct dans ce podcast en m'envoyant vos questions via l'un des liens qui est disponible juste en dessous. Vous allez enregistrer un vocal, poser votre question et apparaître dans le podcast. Donc n'hésitez pas à le faire et j'y répondrai avec grand plaisir. Quant à nous, nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour la suite de votre hebdomadaire et d'ici là, que le pump soit avec vous.